Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Anne Vidali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Express et vous avez enquêté sur une affaire qui pose bien le problème de ce que sont les crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles dont le Bitcoin est sans doute la plus connue. Alors pour commencer, en deux mots, vous nous dites le Bitcoin, c'est quoi précisément ?
C'est simple à expliquer, difficile à concevoir, puisque en fait c'est une monnaie qui n'en est pas une, ce sont des lignes de code dans un ordinateur qui remplacent les billets et les pièces. Et ça permet ensuite de retransformer éventuellement ces bitcoins
en monnaie
réelle, véritable devise, ouais. Enfin en devise telle qu'on les connaît.
Alors ça nous amène à l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. Cette affaire, elle commence par un personnage, c'est un Russe qui s'appelle Alexander Vinik. Alors là encore en deux mots, Vinik c'est qui ?
Alors Vinik, on a très peu d'informations sur lui finalement, les Russes en ont sûrement beaucoup plus puisqu'il est russe, il a 39 ans. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est quelqu'un qui, d'après notamment le dossier d'accusation monté contre lui par les Américains, était au moins l'un des opérateurs, si ce n'est à la tête, d'une plateforme de crypto-monnaie qui s'appelait BTCE.
BTCE qui propose des services, en fait, quasiment de transformation de ce qu'on disait tout à l'heure, une monnaie réelle en monnaie virtuelle. Et il en est passé énormément d'argent par son site.
Oui, alors d'après l'enquête, il serait passé par son site l'équivalent de 9 millions de bitcoins. Aujourd'hui, c'est à peu près 33 milliards d'euros, donc c'est considérable,
ouais, c'est
mais c'est au cours actuel. Et sachant que le Bitcoin, donc qui aujourd'hui se négocie aux alentours de 3 000 euros, a atteint 12 000 ou 13 000 euros de mémoire, voilà, ça donne une idée des montants.
Sauf que on regarde d'abord le montage de cette plateforme et on voit que c'est un montage quand même hyper opaque. Des serveurs en Californie, enfin ça passe par
voilà,
la planète entière.
C'est un montage très compliqué. Donc comme vous le disiez, des serveurs en Californie,
un site internet en Bulgarie,
une société derrière qui est installée aux Seychelles, mais avec une ligne téléphonique russe, des domaines web enregistrés en France, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et dans les îles Vierges britanniques. Voilà.
On voudrait brouiller les pistes, qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
Exactement, hein. C'est un véritable maquis et il semblerait que les utilisateurs aient été essentiellement des délinquants et des criminels qui utilisaient cette plateforme pour blanchir leurs avoirs.
Alors on peut en citer quelques-uns, il y a CryptoWall. CryptoWall, on en a parlé parce que ce sont ces fameux rançonneurs qui envoient un logiciel qui crypte les données d'un hôpital par exemple ou d'une entreprise et qui lui dit si vous voulez la clé pour déchiffrer et récupérer vos données, il faut nous donner de l'argent. Et ces gens-là étaient les clients de cette plateforme.
Voilà, alors les promoteurs, je ne sais pas comment il faut les appeler, les promoteurs ou en tout cas les cyberpirates qui étaient derrière ce rançongiciel, CryptoWall, se sont servis de la plateforme de Vinik pour blanchir les rançons qu'ils ont réussi à tirer des malheureux utilisateurs d'ordinateurs dont ils avaient chiffré les données.
Les euros des rançons sont convertis en bitcoin, donc blanchis via cette grosse lessiveuse.
Voilà,
c'est ça. Et il y en a beaucoup des clients, parce qu'il aurait 700 000 clients.
Ouais, il y aurait eu 700 000 clients, donc c'est considérable. Mais c'est vraiment ce que m'a dit un enquêteur, c'est que de son point de vue, cette plateforme était la plus grosse blanchisseuse que la planète ait connue.
Ah oui, si vous parliez de 33 milliards tout à l'heure, et sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Mais là, on se situe à l'échelle de la planète.
Ouais. Alors, justement, à l'échelle de la planète, il y a du monde qui cherche à mettre la main dessus aujourd'hui, parce qu'il a été arrêté en Grèce, Alexander Vinik. Mais on a d'abord les États-Unis qui veulent son extradition.
Les Américains ont demandé son extradition. Ils veulent l'interroger, bien évidemment, sur
l'argent qui a circulé sur sa plateforme.
Exactement, sur le blanchiment. Mais il semblerait qu'ils veuillent aussi l'interroger sur autre chose, puisqu'il pourrait avoir des réponses intéressantes à leur apporter dans le cadre de l'enquête sur les ingérences russes éventuelles dans la campagne présidentielle. Et c'est peut-être pas un hasard si deux autres hackers russes ont été extradés vers les États-Unis, l'un en provenance d'Espagne, l'autre de République tchèque, au cours de l'année 2018.
Sauf que les Russes, eux, ils n'ont pas l'intention l'intention de le laisser partir vers les États-Unis. Eux aussi veulent le récupérer.
Alors les Russes ont demandé également à ce qu'il leur soit remis. Il semblerait qu'ils aient découvert que Vinnik ait également commis des fraudes sur le territoire russe, à hauteur de 12 millions d'euros, je crois. Et ils demandent son extradition. Et la France demande également son extradition. Donc trois pays se disputent l'extradition de Vinnik.
Alors la France, justement, parce qu'il y a des entrepreneurs qui se sont fait rançonner par des clients de cette fameuse plateforme. Ils sont une dizaine.
Voilà, tout à fait. Vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de ces fameux rançongiciels. Et en France, l'enquête a démarré, effectivement, à partir de cette problématique-là. C'était le rançongiciel qui s'appelle Loki. Enfin, ils ont des tas de petits noms, Loki, Petya, CryptoWolf, enfin, il y en a énormément.
Tout aussi sympathiques les uns que les autres.
Voilà. Loki a fait des ravages en France en 2016 et en 2017. Donc il y a eu deux vagues. Il y a eu en France un certain nombre de dépôts de plaintes, notamment en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Ce sont plutôt des chefs d'entreprise qui ont porté plainte. Et donc les gendarmes ont commencé à enquêter sur cette affaire. Et petit à petit, ils ont remonté la piste de cette plateforme BTCE.
Et donc, ils sont remontés jusqu'à Alexander Vinnik, qui aujourd'hui donc est détenu dans une geôle en Grèce. En fait, ce sont les Grecs qui ont la clé. Est-ce qu'ils vont l'extrader vers les États-Unis, vers la Russie ou vers la France?
Alors, je pense que les Grecs sont bien embêtés. Effectivement, c'est eux qui ont la clé. Les Américains ont obtenu une décision favorable de la justice grecque dans un premier temps. Puis les Grecs ont accordé l'extradition demandée par la Russie. Puis la France a émis un mandat d'arrêt européen. Donc aujourd'hui, c'est à la Cour suprême grecque de trancher. Mais le problème n'est pas seulement, c'est pas seulement une question judiciaire ou juridique. C'est aussi un problème politico-diplomatique que les Grecs vont devoir gérer.
Ouais. On verra donc ce qu'il en sera. Cela dit, cette question des crypto-monnaies préoccupe de plus en plus les autorités. À tel point d'ailleurs qu'en France, puisqu'on y est, on continue, TRACFIN a créé une nouvelle division d'enquête qui est spécialisée là-dedans.
Oui, tout à fait. TRACFIN, qui est la cellule anti-blanchiment du ministère de l'Économie et des Finances, a créé cette année une cellule dédiée à la cybercriminalité et donc au blanchiment. Et une des tendances qui apparaît, c'est effectivement le recours croissant aux crypto-monnaies dans les escroqueries, comme des escroqueries aux investissements en Bitcoin. On vous fait miroiter des placements fabuleux, mais vous ne revoyez jamais votre argent. Et ça permet également les transactions sur ce qu'on appelle le darknet, le net profond. Donc,
mais on voit mal, franchement, qui d'autre ça pourrait intéresser, dans la mesure où vous avez une monnaie qui un jour vaut 13 000 euros, qui le lendemain vaut 3 000 euros. Qui de sérieux, qui veut avoir une façade légale, utiliserait ce type de monnaie?
Je pense pas que toutes les transactions soient liées à la criminalité. Aujourd'hui, il y a des levées de fonds en Bitcoin. Alors, je sais pas, c'est peut-être une mode, on va peut-être en revenir. En tout cas, le cours du Bitcoin remontera sûrement.
C'est le moment d'en acheter. Alors,
c'est ce que vous voulez dire.
Très bien. Bah, écoutez, c'est pas le conseil qu'on donnera, en tout cas, en ce début d'année. Merci, Yann Vidali, et très bon début d'année à vous également.
Merci à vous. Bonne année.